C'est parti.
Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
Hey Lewis, it's hammer time.
Accélère!
Toto?
Yes.
It's called a motor race, okay?
Sorry?
We went to car racing.
This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergazanco. C'est le sixième épisode de cette saison 2023. Alors attention à 6 épisodes, mais on est juste après le 4e Grand Prix, car en effet, nous sommes actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan. Un grand débat géopolitique nous avait animé sur le barbecue précédent. D'après mes sources et l'article que j'ai écrit sur Wikipédia, l'Azerbaïdjan est un pays du Caucase situé sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie. Donc tout le monde avait raison, ou tout le monde avait tort, c'est à voir. En tout cas, une information qui vaut son pesant de camembert, c'est que Bakou est la capitale avec l'altitude la plus faible du monde, 28 mètres sous le niveau de la mer. Donc voilà, ça c'est de l'info, et c'est comme ça qu'on commence notre barbecue F1. Et donc, avec moi Jacques Lafrite, autour du barbecue, eh bien, on retrouve Lance Niol. Comment ça va, Lance?
Bonjour, bonsoir à tout le monde. Là, je pense que... Sans trop spoiler, on peut dire que ce Grand Prix de Bakou portait bien son nom.
Oh.
Même si on a eu un durable avec la course sprint et ce nouveau format de week-end censé nous animer pendant 3 jours et pas un jour et demi selon la FIA. Donc, on va faire ça de manière professionnelle. Mais on va envoyer de la merguez parce qu'il y a quand même de quoi faire.
Ok. Et puis, avec nous, le grand retour de Charles Carrefour. Alors voilà, ça se passe un petit peu mieux chez Ferrari. Et boum, ça y est, qui revoilà ? L'ami Charles, comment ça va ?
Salut à tous. Effectivement, j'ai été bloqué à Maranello pendant quelques semaines et j'ai eu des petits problèmes de visa, comme on dit.
Ok.
Et ben voilà, on se repointe un peu sur le continent. Et du coup, j'ai pu y aller, j'ai pu venir. Quelques merguez ensemble.
Ok, bon, ça fait plaisir. Et puis, il y aura peut-être avec nous Olivier Pastis, mais on n'est pas sûr, mais peut-être. Et puis aussi un peu de Sébastien Vittel avec ses infos de la semaine. Vous saurez s'il continue ou s'il arrête sa grève comme il faisait auparavant. Donc, effectivement, Bakou. Déjà, la première discussion sur ce Grand Prix de Bakou, c'est que c'était la première course sprint de la saison avec un nouveau format. Vraiment où on a cloisonné la course sprint de la course du dimanche avec les qualifs de la course du dimanche le vendredi et les qualifs de la course sprint le samedi matin, course sprint samedi après-midi et Grand Prix officiel de Bakou le dimanche. Alors moi je trouve, on va commencer comme ça par ce débat merguez, je trouve ça un peu bizarre quand même cette histoire de faire deux qualifications sur un même week-end, sur un même circuit. Voilà, moi c'était juste une des réflexions qui m'avait semblé pertinente. Après, c'est à vous de dire ce que vous avez pensé de tout ça. Après, c'est peut-être aussi les circonstances de course qui ont fait que le samedi après-midi et le dimanche après-midi étaient, on va dire, assez similaires. Lance, je te laisse discuter de ça. Tu avais dit que tu avais quand même de la merguez à revendre sur le sujet.
Ouais, bah il y a plusieurs façons de penser la chose. C'est vrai que si t'es pas un adepte des essais libres, te manger, on va dire sur le concept global de la course sprint, on a déjà débattu du truc, c'est pour rendre plus attractif et plus intéressant à la fois pour les télés et pour les téléspectateurs Netflix, le côté, voilà, si je me mets devant la télé, c'est pour voir quelque chose. Et d'intéressant et pour le grand public, on va dire, quelque chose d'intéressant, bah, c'est des mecs qui se bagarrent, soit contre le chrono, soit contre la voiture d'à côté. Donc c'est vrai que ça a été mis là-dessus. Finalement, qu'on mette les qualifs le vendredi et que cette qualification, cette pole, bah, serve pour le dimanche, bah, pour le coup, c'est vraiment la pole pour le dimanche, parce qu'avant, bah, c'était la pole, mais finalement, tu partais avec la course sprint, et c'était le résultat de la course sprint qui te donnait la grille du dimanche. Mais dans les annales, la pole était réalisée quand même le vendredi. Donc, tu avais déjà quelque chose qui était un peu bizarre. Là, finalement, bah, ça, tu réintroduis le fait que la pole du vendredi, bah, ça détermine la grille du dimanche. Mais par contre, c'est vrai qu'on a, avec ce format-là, finalement, une mini course, un tiers de course, parce que c'est 100 km sur la course sprint. Et que finalement, ces qualifs, c'est le sprint shootout, comme ils appellent ça en bon périgourdin. Bah finalement, oui, ça détermine et t'as vraiment bah une mini course comme tu peux avoir dans les catégories inférieures en F2 ou ce genre de choses. Alors le gros problème, et finalement c'est Max Verstappen qui en a parlé le mieux, c'est que bah finalement, et je pense que notre ami Seb Vittel en parlera aussi dans l'une de ses infos inutiles, c'est que bah, c'est un
Attends,
énorme
tu vas pas te
spoil.
mettre à nous faire du spoil sur les infos de Sébastien Vettel, alors que d'ordinaire, tu te cantonnes juste au résultat du Grand Prix.
Mais pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait vrai, et c'est pas une info inutile, donc c'est pour ça qu'on va s'en servir. C'est que bah finalement, oui, si t'as pas un changement de temps météorologique entre le samedi et le dimanche, bah t'as un avant-goût de ce qui va se passer le lendemain. Surtout si la grille est à peu près équivalente et ça a pas loupé. Donc finalement. Voilà, t'as eu des choses, t'as eu quelques petites frictions, des petites touchettes, mais le principe aussi, c'est de pas endommager sa voiture pour que le lendemain tu puisses prendre le départ du Grand Prix et pas forcément descendre. Qu'avec le budget capé, bah t'as peut-être pas envie de défoncer une bagnole.
Ouais,
Donc
après,
voilà, finalement, c'est tout ça ce qui fait que
ouais,
tu mets les coups en moins, tu fais finalement des vraies courses en plus. Donc, c'est essayer de faire autant, voire mieux, avec moins. Donc, bon, c'est assez particulier. C'était la première. On va voir comment ça va être géré sur les 5 autres de la saison. Mais je reste quand même mitigé sur ce Grand Prix à Bakou où on en reviendra un petit peu plus. Pour la course principale, où finalement, bah, c'est un circuit au plaisir artificiel, on va dire.
Il y en a des bons, il y en a des bons des plaisirs artificiels. Charles Carrefour, comment toi t'as vécu cette nouvelle organisation de Grand Prix avec les courses sprint? Lance disait que les écuries, les pilotes, ils n'avaient pas envie de péter leur bagnole le samedi pendant la course sprint en vue du Grand Prix du dimanche. Mais je crois que c'était aussi dans l'esprit de la Formule 1, là, justement, de scinder le samedi et le dimanche pour justement permettre aux pilotes de s'exprimer un peu à leur pleine mesure le samedi après-midi, parce qu'avant, comme ça conditionnait la grille du dimanche, évidemment qu'ils voulaient pas se mettre dehors. Comment t'as vécu,
Ouais.
toi, ça?
Effectivement, je rejoins un peu l'avis de Lance quand même. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'ai trouvé la communication par rapport au format de Grand Prix peut-être un peu tard. Je ne sais pas si vous aviez déjà eu vent de ce format de qualification, enfin, ce nouveau format sur ce nouveau week-end
Il y avait des rumeurs.
avant.
Il y avait des rumeurs quelques semaines, un mois avant, je crois.
Mais l'officialisation s'est
Ouais.
tombée il y a quelques jours avant, quoi.
Ouais, enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai trouvé ça. On savait qu'à un moment donné, on allait utiliser pneus durs sur la Q1, pneus médium sur la Q2, pneus soft sur la Q3. Il allait avoir la course. Mais le fait que ce soit la qualif, enfin, essai libre 1 le vendredi midi, plus qualification du GP le vendredi après-midi. Du coup, c'est pour le dimanche. Du coup, si tu n'es pas au courant, tu te pointes le samedi après-midi, tu vois des qualifs. tu comprends pas forcément tout ce qui se passe parce que tu te dis bah en fait c'est le même format qu'une qualif, on va dire plus classique. Tu as déjà entendu parler du fait qu'ils allaient proposer ce format de qualification, mais au niveau des temps, on était quasiment pareil. C'était 12, enfin 18, 12 et 10 minutes, il me semble, pour la Q1, Q2, Q3. Enfin, c'est parfois compliqué, je pense. Et pas forcément encore plus la F1 de toujours s'y retrouver.
Il y a ton son qui coule un petit peu, Charles.
Excusez-moi. Je disais effectivement que si on ne suit pas forcément tout ce qui se passe, si on n'a pas vu le nouveau format du week-end, je trouve que c'est un peu encore plus perturbant. Après, les courses sprint, c'est pas non plus nouveau. On est déjà à la troisième saison, si je me trompe pas, de course sprint. Bon, après, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas un grand fan. Visiblement, Verstappen, il n'est pas non plus un grand fan. Il le dit lui-même que c'est pas top. Pour le coup, c'est bien que, quand même, que certains pilotes s'engagent sur le fait que ça ne soit pas une super idée. Sur le papier, ça peut l'être, hein, mais visiblement, quand on voit les budgets, c'est faire courir des risques pour pas grand-chose. Après, ce qui peut être intéressant, je dirais que voilà, si jamais il y a une des 6 ou 8 équipes, enfin 8 voitures des top teams, en comptant Aston Martin qui se plante sur la première qualif, qui est du coup la qualif de course, potentiellement il a une deuxième chance, et du coup au moins une chance d'aller grappiller quelques points sur le samedi, quoi.
C'est vrai. Après, ça égalise un petit peu.
Mais on va dire que c'était un peu justement avant, on était très exigeants, on leur disait, bah, t'es pilote de Formule 1, t'as pas le droit à l'erreur, il faut y aller. Maintenant, bon, bah, ils ont une sorte de joker sur le samedi après-midi où, bon, bah, si tu as fait une bonne qualif le vendredi, bah, du coup, tu sais que tu pars plutôt bien, donc potentiellement, tu peux marquer des gros points. À toi de gérer le samedi, et du coup, c'est du bonus le samedi. Et au contraire, si tu te foires le vendredi, bah, après, c'est un bonus ou un joker pour du samedi, et c'est à toi de te remettre dedans et de faire en sorte de marquer les 8-10 points qui peuvent être attribués si jamais tu finis premier, quoi.
Ouais. Après, moi, ce que je trouvais, c'est que cette idée de faire cette course sprint, au final, c'est comme s'il y a deux grands prix dans le week-end, quoi. Et dans ce cas, pourquoi ne pas mettre un troisième grand prix le vendredi? Parce qu'il y a les essais libres, c'est quand même fatigant, c'est pas très... T'sais, on va pas poser une journée de congé pour regarder les essais libres. Donc au final, c'est vrai qu'il y a une inflation qui semble un peu... Vas-y, Charles.
Ouais, bah après, je pense que, en fait, sur un circuit comme Baku, où t'as... qui a roulé dessus en F2, mais il y a peut-être maintenant 4 ans, voire 5 ans de ça. Logan Sargeant, qui a roulé l'année dernière, mais qui était aussi en F2. Pour les rookies, tu vois, aussi, je trouve que c'est important de leur laisser un minimum de repères. J'ai pas eu vent de grands changements en termes de vibreurs ou vraiment de virages qui ont été modifiés. Non.
Je crois qu'il y a des vibreurs qui ont été un petit...
Alors, oui, ils ont un petit peu décalé certains trucs. Mais...
Oui, qui ont été un petit peu plus bas.
Il n'y a pas eu de changement plus profond que ça, quoi.
T'as une zone de DRS qui était un peu plus raccourcie, apparemment. Ouais.
Tous les pilotes, on va dire, qui avaient déjà roulé dessus en Formule 1, en soi, même avec le simulateur, effectivement, en un essai libre, t'as le circuit en tête, là-dessus, c'est pas un problème. Et même avec 3 essais libres, on a bien vu que ça les empêchait pas de faire des cagades en course, donc c'est pas du tout un problème. Après, je pense qu'il y aura toujours un...
T'as les réglages de la voiture et tout ça aussi, quand même.
Bon, je veux pas non plus trop spoiler, mais bon, on voit que si en essai libre 1, on part avec un mauvais réglage, bah, on n'a pas trop le choix, parce que le reste, c'est que du parc fermé, et du coup, on a pour faire le bon réglage, et bon, il y a une équipe qui est un peu de bleu, et qui visiblement a pas réussi à trouver le bon réglage tout de suite.
Ouais, ça bon. Peut... Ok. T'as toujours un problème de surtout, un souci de micro, que... Charles, quand même. Vas-y, Lance.
Ouais, mais surtout, c'est que je trouve que ces formats sprint arrivent aussi un peu trop tôt dans la saison. Parce que justement, tes quatrièmes Grand Prix, tu as besoin de ces essais libres. Parce que t'avais quand même pas mal d'écuries qui amenaient des nouveaux packages, avec des évolutions. Et je pense quand même que tu devrais laisser tranquille les. Vu que maintenant, en plus, on est sur 20, normalement 24 Grands Prix, donc là 23, Laisser 25% de la saison, laisser 6 grands prix aux équipes pour faire les améliorations, pour qu'il y ait du roulage, surtout qu'il y a tous les essais hivernaux, il y a une partie qui a été déjà enlevée. Voilà, après, tu as les trois quarts du reste de la saison pour coller
Ouais,
des
mais
courses au
alors
sprint.
ce que les
En
auditeurs ne
plus,
voient pas, ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que derrière toi, il y a une grande voiture de Formule 1 qui a effectivement des couleurs bleues et roses. Et je crois que ça conditionne un peu ce que tu es en train de nous raconter, à mon avis, au moins sur ce Grand Prix-là, quoi.
Non, mais même pour les autres, t'as un petit peu, t'as vraiment pour tout le monde. Même chez Red Bull où ça surdomine, tu sens qu'il y a quand même des petits problèmes de fiabilité quand même. Donc ils peuvent pas mettre envoyer le pâté non plus sur la voiture. Il y a quand même de la réserve. Non, mais je pense que tu dois pouvoir laisser. Et en plus sur ces courses de sprint en circuit en ville, on va dire que c'est tellement facile de t'envoyer dans le mur et d'exploser ta voiture que bah, tu as forcément de la retenue, quoi.
Mais moi.
Surtout sur ce début de saison, tu voyais quand même que bah, justement les Alpines, vu dans l'état où elles ont terminé l'Australie, il a fallu remonter les voitures avec bah, finalement les fuites hydrauliques, avec des moteurs qui prennent feu. Tu te demandes si elles ont été remontées correctement, même s'il y a eu un même si tu as eu un mois, tu te dis qu'il y a quand même des trucs qui ont dû quand même
Ah, il y a eu
se
des soucis, hein.
goupiller, j'en sais rien, mais voilà, c'est l'un, et là ça va être encore pire, c'est-à-dire qu'avec 5 grands prix en 6 semaines, là t'éclates une voiture sur un grand prix. Bah, bon courage pour ne pas pénaliser sur les deux, trois grands prix suivants, quoi.
Ok, mais moi, c'est vrai que ça me fait penser quand même à. Enfin voilà, il n'y a plus d'essai, quoi. C'est un peu. C'est la stratégie Under. Voilà, on est
C'est
tout de
ça.
suite projeté dans la vraie vie. Charles, tu voulais
Mais c'est
ajouter
vrai
quelque chose?
qu'un Schumacher, comme il a fait sa qualif à Jeddah l'année dernière, ou même à Monaco, où il explose des voitures, bah sur effectivement. Du Grand Prix en ultra raccourci, je pense que pour des équipes en plus de bas de tableau, ouais, ça peut vite leur créer un déficit de développement. Ouais, c'est clair que pour le coup, peut vite être déjà sur la retenue parce que bon, bah, 500 000 par là, 200 000 par là, t'es vite à des millions d'euros dépensés dans le vent, quoi, entre guillemets.
Ok, bon, on a fait le tour, je pense, de ce petit débat merguez sur course sprint, avec un peu plus de contenu que ce qu'on avait évoqué auparavant. On parlait juste bah justement de arriver à meubler des jours et vendre des pubs à la télé. En tout cas, on va donc annoncer les résultats des deux courses du week-end, course sprint. On a vu la victoire de Sergio Pérez, suivi d'un Charles Leclerc et d'un Max Verstappen. À noter que Charles Leclerc était parti en pole position de cette course sprint. Ce n'est pas une vraie pole position, mais c'est une faux pole position. Je sais pas, on lui donne le nom qu'on veut en français. À noter que George Russell était aussi quatrième dans les points, suivi de Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Lance Stroll en 8e place. Voilà, et puis pour la course, je vais détailler que les gens qui sont dans les points, et puis on va creuser derrière. Et pour la course, eh ben, victoire de Sergio Pérez en Red Bull, suivi de Max Verstappen et de Charles Leclerc en Ferrari, qui finit troisième justement, et qui avait aussi obtenu la pole du dimanche, avec un quatrième Fernando Alonso, cinquième Carlos Sainz, sixième Hamilton, septième Lance Stroll, huitième George Russell. Et puis 9e, Lando Norris qui est dans les points avec sa McLaren qu'on nous annonçait jouer les dernières positions. Et puis 10e, Yuki Tsunoda, surprenant, Yuki Tsunoda. On n'a pas trop entendu parler d'Alpine dans ces résultats-là, mais on va commencer par parler de Red Bull parce que ben voilà, maintenant on a dit que on découpait notre émission écurie par écurie pour parler du Grand Prix. Voilà, ben encore une victoire de Red Bull, un doublé, et puis par contre, voilà, une victoire de Sergio Pérez qui a gagné les deux courses du week-end, qui a été plutôt sérieux, plutôt bon, on peut le dire. Avec son coéquipier Max Verstappen un petit peu peut-être déstabilisé par ce que son coéquipier avait été capable de montrer. En tout cas, à course sprint, Verstappen s'est emporté contre Russell, qui était, on va dire, un peu agressif, mais rien d'exceptionnel. Enfin, en tout cas, à vous de le dire. Et puis, pour la course, peut-être une erreur de stratégie avec la safety car pour Max Verstappen, et derrière, Perez devant et Maxou qui n'arrive pas à rattraper ou à le dépasser. Charles Carrefour, comment tu juges ce Grand Prix côté Red Bull? On se dit qu'ils écrasent le championnat, mais au final, c'est un peu la surprise du chef. Peut-être une véritable concurrence Perez Verstappen, non? Enfin, ou c'est que du cinéma tout ça, et puis. Mais quand même.
Il a toujours été très bon dans les circuits urbains. Il a gagné l'année dernière. Il a gagné Monaco l'année dernière. Il a gagné Jeddah, il me semble, cette année. Ouais. Donc on va dire qu'il s'en sort bien quand il y a des murs en face. Parce que c'est la peur qui le galvanise, les murs, je ne sais pas. Mais après, c'est sa troisième saison aussi chez Red Bull. Donc potentiellement, peut-être qu'il s'est enfin habitué à une voiture. C'est rare de voir un coéquipier de Max Verstappen tenir aussi longtemps, limite.
Oui.
Effectivement, cette année, il l'a dit, s'il faut un jour penser à moi, je penserai à moi. Alors, j'ai pu dire qu'il pensera à lui le jour où son contrat sera pas renouvelé. il peut, entre guillemets, venir jouer les troubles faites. Après, je pense que sur la durée, Verstappen sera quand même le numéro 1 et très redoutable là-dessus. Effectivement, je pense que pour le coup, il peut venir de temps en temps jouer à trouble fête, mais pas sur la durée. Après, en course, on l'a vu, hein, DRS ouvert, c'est une fusée, hein, il n'y a pas de mystère. 30 km/h de différence par rapport à la Ferrari, quand, en tout cas à la Ferrari de Leclerc, quand il dépasse. Il a fait deux dépassements, on va dire que c'est même plus des dépassements au freinage, et limite des dépassements de DRS comme on avait l'habitude de voir. Et du coup, on va dire qu'après, il y avait juste à gérer, il s'est fait un petit peu peur à un moment donné durant la course du dimanche. Mais on va dire que là-dessus, c'était maîtrisé de A à Z. La stratégie, on va dire qu'il y a eu... Il y a eu ce petit double drapeau jaune qui aurait pu donner effectivement une lueur d'espoir, une stratégie ou en tout cas un scénario un peu plus sympa. Mais après, vrai dire, maîtriser. On savait que la voiture en course. Charles Leclerc, il est très très fort aussi en qualif, mais la voiture, elle a toujours été très forte en course. Elle n'a jamais beaucoup de grip, on va dire que c'est une V2 en soi de l'année dernière, hein, donc aucunement surpris de la performance de deux pilotes ce week-end, voilà, à vrai dire.
Ok, Lance, des choses à ajouter quand même, enfin, vraiment un contraste important de la domination entre les qualifications et la course du côté Red Bull.
Comme le disait Charles, hein, maintenant on est habitué, parce que c'était déjà le cas l'année dernière. On peut d'ailleurs s'étonner du nombre de pôles de Charles Leclerc et leur conversion en victoire derrière, parce que pour le coup, avec cette victoire, Checo prend une victoire d'avance sur Charles Leclerc en passant à 6 et laissant Charles derrière à 5. C'est sûr que cette Ferrari, le jour où elle réussit à suivre et avoir un rythme de course finalement et garder cet aspect qu'elle a de domination sur un tour, Ferrari pourra espérer quelque chose. Et c'est justement ce qu'on espérait l'année dernière, que Ferrari puisse rivaliser au maximum de temps avec Red Bull avant que niveau fiabilité et stratégie, ça parte en sucette. Non, mais après, pas forcément beaucoup de choses à ajouter par rapport à ce qu'a dit Charles. Finalement, on n'est pas étonné de cette performance des Ferrari sur un tour de qualif. C'était déjà le cas l'année dernière. Et ça donne justement de l'espoir peut-être côté Scuderia, où si un jour tu arrives à transformer l'essai de cette voiture très bonne en qualif à ce qu'elle obtienne un rythme de course du même acabit,
Non, ouais.
C'est, et tout l'espoir est... tous les espoirs sont permis. Donc finalement, pas forcément étonné. Après, Checo, comme l'a dit Charles, hein, c'est la Red Bull, c'était une fusée. On l'a vu sur la ligne droite à chaque fois, aussi bien. Alors, pour la course du dimanche, Charles s'est fait déposer par les deux Red Bull. Il y a cette safety car avec Max qui se fait un peu piéger. Est-ce que c'est une erreur de stratégie? Je sais pas, parce que il était en train de totalement perdre ses pneus qui étaient en surchauffe. Juste avant de rentrer, t'avais Checo qui était revenu sur les fesses, il était rentré dans la zone de DRS. Est-ce qu'il l'aurait sauté sur ce tour-là ou le tour d'après? C'est vraiment joué à pas grand chose. Finalement, il s'est arrêté avant la safety car et il s'est fait piéger par la chose. Et derrière, il a pu remonter sur Charles le passé. Et derrière, on a assisté pendant une grosse trentaine de tours à, même plus, à Max qui était à 2 secondes, 3 secondes de Checo. Sans pouvoir lui revenir sur les miches et pouvoir essayer de profiter un peu du DRS parce que les deux voitures étant à peu près équivalentes, je pense au niveau des réglages ou même de la cartographie moteur ou ce genre de choses. Donc voilà, pour le coup, c'est finalement Bakou. Là, j'avais entendu la stat, il a parfois été extraordinaire avec plus de 80 dépassements. Là, je crois que sur la course de dimanche, on était à une vingtaine de dépassements, dont 2 seulement hors DRS. Voilà, je pense qu'on a aussi tout dit sur le côté maîtrise de la course et du bis repetita du samedi, où finalement ça s'est passé exactement la même chose. Max ayant été un petit peu chafouin à la fin de la course vis-à-vis de Russell avec des noms d'oiseaux et autres têtes de bip qui ont pu voler. Ça limite animé un petit peu le week-end et fait revenir un petit peu le côté un peu bad boy de Max sur le truc du finalement tu râles aujourd'hui sur ce qu'a fait Russell, mais finalement c'est ce que tu faisais toi il y a 2 ans quand tu essayais d'aller chercher les places et essayer de grappiller ton premier titre de champion du monde. Donc,
par rapport à ce duel Pérez-Verstappen, est-ce que tu penses qu'il peut vraiment y avoir match, comme on dit?
S'il y avait une dizaine de courses en urbain, pourquoi pas? on est plutôt sur du 1/3/2/3 et on va dire en monde ouvert, hors building et virage à 90 degrés. On va dire que hors bien sûr problème technique, Max est devant sur les circuits dits classiques. Pour moi, il est devant, il l'a montré. Mais sur les urbains, finalement, il n'y a pas un immense écart que ça. Il faut saluer Checo parce que sur cette course-là, il la maîtrise comme Jeddah. Il l'a maîtrisé, il n'a pas laissé les gens revenir vers lui, il n'a pas fait une erreur. Les pneus, il les a mieux maîtrisés que Max. Donc pour le coup, ces 2 victoires, là, il les doit à personne. On viendra pas lui enlever sur ses défaits de course, ses stratégies. Là, celle-là, il la doit à lui-même. Derrière, sur est-ce que finalement, tu as l'espoir que les deux s'accrochent un petit peu, tout du moins la dem race entre les deux pour que
il y ait
du suspense au championnat. Voilà, on va dire.
Non mais
nous, ça nous fait parler, ça fait parler les journalistes.
Mais toi, t'y crois pas.
et le monde de la Formule 1, mais on va dire que tant que Checo réussit à choper les deuxièmes places des meilleurs tours en course, il prendra pas autant de points de retard. Ou tant qu'il aura pas 50, 60, 70 points de retard sur Max, on se dit que c'est toujours possible. Mais derrière.
Prochain Grand Prix Miami circuit urbain. Je fais le rappel comptable des faits. Max Verstappen 93 points, Sergio Pérez 87 points. Donc si on continue dans cette logique, à l'issue du prochain week-end, on a un Sergio Pérez devant son coéquipier.
C'est un urbain, mais un urbain particulier, quoi. C'est pas C'est pas de l'urbain avec vraiment les virages 90 degrés. C'est beaucoup plus coulé. Et faut pas oublier non plus que bah, celui qui a gagné l'année dernière, il s'appelle Max, quoi.
Il s'appelle Max, et
Donc,
c'était à l'époque, c'était encore Ferrari qui était devant à ce moment-là.
c'est vrai.
Ok.
Un autre temps des autres. Hein, des
Charles,
autres
des
pilotes.
choses à ajouter sur Red Bull, ou on va passer à une autre écurie, à la limite, hein, on passera à Ferrari. Qu'est-ce que tu en penses, Charles?
J'ai l'impression qu'ils sont un peu revenus à ce qu'on avait en fin de saison 2022, c'est-à-dire Charles Leclerc dominant en qualif, un Sainz poussif. Alors bon, il a été jamais on l'a dit en préambule hein, on va dire sur la FP1 tout à l'heure. Si t'as pas les bons réglages, si tu te sens pas à l'aise avec la voiture dès le départ. Ton week-end, il est compliqué. C'est ce qui s'est passé pour Sainz parce que visiblement, les réglages de sa voiture ne lui ont pas convenu. Il n'était pas à l'aise. Il a pris comme une belle pilule en qualif
Ouais,
pour
qualif
lui.
sprint, ouais, qualif, c'était chaud.
Il prend 8
Les
dixièmes
8
par Charles
dixièmes,
Leclerc
c'est.
l'après-midi. Et il
6 dixièmes, je
prend
crois.
4 dixièmes et demi sur la qualif du samedi. Ouais, c'est quand même pas très glorieux de sa part. Après, bon, il y a toujours des week-ends avec et des week-ends sans. Enfin, je dis on, je suis très mal placé pour le dire, je pense. Mais bon, là-dessus, c'est pas nouveau. Après, bah, en fait, quand je disais, on a l'impression de les retrouver en fin de saison dernière, c'est-à-dire très bonne en qualif, très bonne sur un tour, mais passé 10 tours, même passé 3 tours, hein, à vrai dire, là. Bah, c'est fini quoi. Il n'y a plus rien. On sait que la voiture elle bouffe de la gomme, elle n'est pas très bonne en rythme de course. Donc, limite, aller chercher une troisième place, c'est faire un très bon résultat. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, de toute façon, Charles Leclerc, il fait tellement un très mauvais début de saison que faire une troisième place, c'était limite inespéré. Je pense que personne n'allait se dire il allait faire au moins les deux pôles. C'était vraiment, je pense, un gros coup de poker à faire. Donc, bon, un rebond. Est-ce que c'est une vraie évolution ou effectivement, est-ce que c'est juste une vague qui va passer? L'année dernière, à Miami, il avait été encore très bon en qualif, mais après, ça avait été un peu plus compliqué sur la course. Donc, à voir si effectivement les améliorations qui devraient arriver, mais qui, à mon avis, il me semble qu'elles ne passeront pas à Miami, est-ce qu'elles
Non,
arriveront ou
c'est
pas?
pas prévu pour Miami.
Voilà, à voir effectivement la forme de la voiture. Ils auront sûrement un peu plus de temps pour faire les réglages, mais comme toutes les autres écuries. Donc, voilà. Je sais que la voiture l'année dernière, elle n'a pas forcément beaucoup plus évolué. Donc, en soi, l'année dernière, ça convenait quand même plutôt pas trop mal à Leclerc. À voir si cette année, il arrive quand même à faire une qualif pas trop mal pour faire un résultat. Mais bon, derrière, il y a quand même du monde qui est capable de pousser et de les embêter en course, quoi. Donc, c'est un peu ça qui est compliqué pour eux.
Ok, on t'avait enchaîné directement sur Ferrari, mais l'innovation de ce barbecue, c'est que j'ai prévu un petit jingle pour Ferrari, pour d'autres écuries aussi, pas toutes, parce que un jingle pour Red Bull, c'est pas évident. Et puis il me reste aussi Aston Martin, mais c'est le petit jingle de Ferrari déjà là. Voilà, Lance. J'ai noté quand même que Charles avait pas mal opposé Carlos Sainz et Charles Leclerc. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que quand même l'écart était pas vraiment était très marquant quand même sur ce week-end, même si en course, au final, Carlos s'en est plutôt pas si mal sorti que ça, on peut dire, puisque Charles Leclerc finit en troisième position et Sainz finit en cinquième position en ayant, on va dire, bien résisté à Lewis Hamilton. Et pour ce qui était de la course sprint, on avait Leclerc qui était deuxième et son coéquipier Sainz en cinquième position. Est-ce que t'as des Qu'est-ce que t'as pensé de ce duel, sachant que le week-end précédent, on dit qu'en Formule 1, il n'y a que le dernier Grand Prix qui compte, mais on parlait déjà du départ de Charles Leclerc. Il avait déjà presque le numéro 44 gravé sur sa fesse gauche. Il était déjà chez Mercedes. Et puis on disait, je sais plus, on parlait de Sainz, c'est lui qui allait reprendre l'écurie. Enfin, on savait plus trop ce qu'il fallait faire du côté Ferrari. Et puis au final, voilà, un écart fort quand même entre deux pilotes.
Oui, bah après, on sait aussi là pour le coup. Alors il y a peut-être que Carlos qui est pas au courant que c'est le pilote numéro 2 largement derrière et que Charles est le pilote 1. Hein. Bon, on a quand même fait venir Fred Vasseur pour faciliter justement les résultats de Charles. Voilà, c'est le pilote sur lequel ils veulent miser. On a vu que Carlos sur des petits l'année dernière sur certaines courses, oui, il pouvait rivaliser, mais le plus souvent il est en retrait. Tout à l'heure je parlais qu'il y avait seulement deux dépassements hors DRS qui avaient été faits pendant le Grand Prix du dimanche, pendant la course du dimanche. Bah, c'est Sainz qui se l'est pris avec un super dépassement d'Alonso. Donc, OK, il termine P5, mais il termine à 20, enfin il est à 20, 22 secondes derrière Alonso, quoi. Donc il se et d'autant plus et un petit peu plus de Charles. Donc quand en course sans finalement le safety car, t'es quasiment sur un peu moins d'une quarantaine de tours, tu te prends 25 secondes par ton coéquipier. Ouais, bah oui, tu t'es pris une bonne grosse merguez bien cuite dans la tête, quoi. Et finalement, il a jamais rivalisé. Il s'est fait détruire par Charles dans les deux qualifs. Il se fait détruire dans la course du dimanche. Bah après, essaye de te relever, mais autant chez Red Bull, on peut presque croire à Horner et encore. Qui croit encore Horner quand il fait des déclarations sur ses pilotes.
Il n'y a pas d'Horner.
Voilà, c'est exactement ça. Autant, voilà, chez Ferrari, tu sais que c'est quand même Charles qui est devant et Carlos essaiera de récupérer. À part en Espagne où ils sont persuadés que c'est le pilote numéro un Ferrari, partout ailleurs dans le monde, on sait que c'est Charles Leclerc, quoi, finalement.
Bah, il y a des moments.
Je pense que quand on a dit ça, on a résumé la situation.
Ouais, après, il y a des moments sur la saison précédente où on avait l'impression aussi que les gens de Ferrari savaient pas non plus. Mais ça, c'est.
Ouais.
Ouais, Charles.
Mais bon, où eux, ils savaient, et t'as Carlos qui leur faisait un doigt à travers la radio, quoi. Donc, non. Non, je vais pas faire votre stratégie qui va me mettre dedans.
Ok.
Mais oui, bah après, on a vu, c'est aussi pour ça que t'as fait venir. Enfin, en tout cas, j'espère que Carlos est assez intelligent, voyant Vasseur débarquer comme team principal. Oh là là, est-ce qu'il va avantager Charles Leclerc? Oh, je ne sais pas. J'espère pour lui qu'il est plus intelligent que ça, quoi.
Bah, ce qui compte, c'est les performances aussi en piste. Et là, visiblement, sur ce week-end, c'est compliqué. Mais pour autant, est-ce qu'on peut considérer que Ferrari a un peu repris de sa superbe, puisque là, on se demandait s'ils étaient même pas en quatrième, la quatrième écurie du plateau ou la cinquième écurie du plateau, on savait pas. Et là, quand même, sur ce Grand Prix, ben, écoutez, avec un Leclerc qui finit deuxième de la course sprint, troisième de la course du dimanche. Et Sainz qui est aussi dans les points, qui est pas mal en cinquième position.
Il a triplé ses points, Charles. Hein,
Ouais, mais même la Scuderia,
Prix,
même pour la Scuderia, c'est pas mal. Donc, est-ce que d'après toi, ils sont revenus un peu là où ils doivent être? Ou c'est lié à ce circuit atypique? C'est lié à Charles qui était un peu en état de grâce en qualif? Comment tu vois les choses?
Après, ce Grand Prix, il est vraiment particulier, parce qu'on en parlera, c'est un circuit qui réussit aux AlphaTauri. Donc, bon, cette phrase n'a aucun sens quand tu y réfléchis. Donc, finalement, oui, ça, les voitures performent assez, les réglages sont vraiment particuliers. T'as deux secteurs où c'est des lignes droites avec des gros freinages et la partie vieille ville où, c'est un enchaînement de petites courbes, donc où les voitures qui font 5 mètres de long
Ok.
et 12 mètres de large, elles ont du mal à passer, quoi. Donc c'est vraiment un circuit atypique.
Donc on peut pas
Oui,
faire de...
c'est peut-être circonstanciel. Donc,
D'accord.
mais bon, derrière,
tu sentais quand même que Caston, c'est pas un circuit qui leur allait, et Alonso est pas loin de chatouiller Leclerc
Tout à fait.
sur la fin de course, quoi.
On va enchaîner sur Aston, hein, t'as raison. Donc Charles, encore un week-end, ben, on va arrêter de dire qu'ils confirment, mais ils sont là hein, maintenant. Aston Martin, ils sont dans la place. Pour autant, sixième course sprint pour Alonso, son coéquipier huitième. Et pour le dimanche en course, Alonso quatrième, pas loin de chatouiller notre ami Leclerc. Et puis on a un Stroll en septième position qui, pareil, ne se fait pas dépasser par Russell. Donc encore une fois, ils sont là, ils sont bons, ils sont chauds. Alors une info tout de même que j'ai relevée pendant ce week-end, c'est qu'ils ont expliqué qu'à mi-saison, ils refaisaient un peu le point concernant les temps de soufflerie, les temps de développement par rapport au classement de mi-saison. Donc c'est un avantage qu'il faut qu'ils poursuivent maintenant, qu'ils vont perdre, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises dans nos barbecues, qu'ils vont perdre à la mi-saison. Charles, est-ce que Aston Martin, là, justement, on les sent chaud, Alonso, très bon?
Je dirais qu'effectivement, à l'heure actuelle, ils font partie des top teams, dans le sens où en fait ils se battent facilement, ou en tout cas Alonso se bat facilement avec les leaders. Là-dessus, c'est effectivement un step. Je pense que ce pas en avant qu'a fait Aston, il n'a jamais été réalisé par une autre écurie du midfield depuis un moment. Parce que passer de puis aller parmi les moyens du midfield, voire des fois j'ai réussi à avoir des éclats, et même si on passe outre la Mercedes Rose de 2019, on est quand même sur une écurie qui vivotait depuis des mois, même s'ils avaient injecté beaucoup d'argent. Visiblement, cette année, ça a l'air de quand même se vérifier. Avoir effectivement les premiers souvent les premiers ajustements arrivent au bout de la voilà, cinquième Grand Prix, on arrive sur les premières évolutions. À voir si justement au fil des mois et des Grands Prix, ils arrivent quand même à bien faire évoluer la voiture. Hein, ce qui était un peu reproché sur la voiture 2019, hein, quand ils avaient réussi à faire un modèle un peu copié sur la voiture sur la Mercedes, c'est que bah, le développement derrière, c'était compliqué. Donc là, avec le recrutement qu'ils ont fait, les ingénieurs qu'ils ont recrutés, à voir s'ils arrivent bien à la développer, parce que pour le coup, ils ont un duo de pilotes, je pense, qui tient le coup, dans le sens où on a Alonso qui mène la baraque, et Stroll qui, on va dire, même s'il est moins performant, je dirais rassure. Donc je ne serais pas surpris qu'un jour, effectivement, qui gagne une course, je ne dis pas qu'il amènerait de bout en bout. Je pense pas qu'il fasse comme Red Bull a pu faire ce week-end-là, mais sur un Grand Prix ouvert, voilà, ça se trouve, on serait capable d'avoir une Aston Martin sur la plus haute marche du podium. Ça me surprendrait pas vraiment. En tout cas, suite aux quatre premiers Grands Prix et voir les
Bien
cinq
sûr.
premières courses, pour le coup.
Alors, juste rappel des positions au classement. Donc, Alonso est troisième du championnat avec 60 points. Derrière, Sergio Pérez qui en a 87. Et au niveau des écuries, on a Red Bull qui a 181 points, avec 4 victoires en cas de Grand Prix. Et Aston Martin en seconde position, deuxième position, 87 points. Mercedes derrière, 76. Et Ferrari, 62. Donc, c'est les quatre écuries de tête. Cinquième écurie, c'est McLaren. On tombe tout de suite à 14 points. Donc voilà, il y a ces quatre écuries devant. Charles?
Il ne faut pas dire à Red Bull et trois autres équipes.
C'est ça, ouais.
Yes.
Donc finalement, Aston, il se retrouve à être les meilleurs des suivants, quoi.
C'est ça. Et donc, est-ce que toi, tu crois, Lance, on a entendu Alonso dire qu'il était le mentor de Stroll, qu'il le formait pour être le leader d'Aston Martin pour les 10 prochaines années, sachant qu'ils veulent jouer le titre. Est-ce que pour toi, c'est complètement sérieux, ou est-ce que c'est pour toucher sa prime éthique qui raconte ça?
Bon, y a peut-être un petit peu des deux, mais quant à le fils du propriétaire qui est second pilote, est-ce que le propriétaire rajoute pas dans une petite ligne en plus
Et sur ton contrat, je te rajoute un petit million de dollars pour donner des leçons de pilotage en plus à mon fils. Perso, je suis milliardaire. Si j'ai mon deuxième fils qui est là-dessus et que j'ai des ambitions et que j'ai envie que fiston il continue dans la Formule 1, ouais, je suis plus à un petit million près sur le salaire pour que. Bon, après, on a l'impression que c'est de la conduite accompagnée, que Lance, il a 16 ans et que t'as papa Fernando à côté, qui a mis l'autocollant derrière, conduite accompagnée, et je t'explique la vie. Non, mais déjà, rien que sur... Si finalement, sur la gestion d'une course, parce que finalement, avec cette Aston Martin-là, Lance Stroll découvre aussi ce qu'est... de se battre dans le premier quart des places sur une course. Et se battre dans le premier quart, c'est pas la même chose que de se battre dans le deuxième, troisième quart et dans le dernier quart de course. C'est beaucoup moins dense devant, tu peux mieux gérer. C'est aussi pour ça que on avait entendu l'année dernière Fernando faire une petite pique à Lewis Hamilton, disant que c'est tout de suite plus compliqué de conduire quand t'es au milieu des voitures en midfield que devant, quoi. Et finalement, pour Stroll, c'est un petit peu pareil. Donc finalement, il apprend aussi et il prend ce que peut lui apporter Fernando sur la gestion justement de ce genre de choses, c'est-à-dire gérer et performer pour qu'à chaque course, Lens finisse dans les points. Parce qu'aujourd'hui, avec ces quatre top teams, sauf incident de course, les 8 premières places sont réservées. Et de loin. C'est-à-dire que on parlera tout à l'heure, et c'est malencontreux pour nos franchises, pour nos voitures bleues et de moins en moins roses. C'est qu'aujourd'hui, tu te bats normalement à la régulière, tu te bats pour 1 ou 2 points par course.
C'est juste.
Et que finalement, là, tu as rappelé les classements McLaren à 14 points et Alpine à 8, c'est que finalement, 6 points, ça peut être énorme à remonter pour les écuries de bas de grille. Donc, toutes ces P9, P10, voire un petit peu mieux si tu as des éléments de course, ce qui rend encore plus rageant l'Australie, où Pierre Gasly et Esteban avaient marqué des gros points, parce que quand même Gasly était P5 quasiment toute la course, ça arrivera pas à tous les Grands Prix. Donc,
OK.
franchement, oui. Alors après, sur le talent intrinsèque, on est d'accord. Stroll, c'est le moins bon pilote des 8.
Ok, très
Oui,
bien. On
a
va rester sur
priori.
ça. On va rester sur ça du côté Aston. On va passer à Mercedes et j'ai un petit jingle à gérer par la production Radio Magazine Co. Dans un petit jingle Mercedes. On n'a pas trop parlé d'eux là. Pour autant, enfin voilà, ils sont plus devant. Hein, c'est Red Bull et puis même Aston, ils sont. Mais au final, Hamilton, Russell, ils s'en sortent pas si mal puisque on se retrouve avec un Hamilton qui avait fini 7e en sprint et qui finit 6e en course le dimanche et Russell 4e en sprint et par contre 8e le dimanche. C'est pas à la fois pas ouf et en même temps on les a sentis quand même présents alors qu'ils nous inquiètent à chaque fois on se demande qu'est-ce qui va se passer du côté Mercedes et pour autant on les a trouvés et chose à signaler tout de même c'est que on a senti Hamilton qui avait pris un petit ascendant sur Russell sur ce week-end-là que ce soit qualification et course et etc. Ou alors c'est peut-être plus Russell qui a mal géré ce week-end que Hamilton qui l'a dominé, je ne sais pas. Qu'as-tu pensé de ce week-end Mercedes, Lance?
Clairement, et ça se traduit aussi dans les dires, dans l'attitude d'Hamilton, qu'on a trouvé beaucoup plus zen ce week-end. à la fois dans les commentaires, félicitant l'équipe pour le boulot réalisé sur le week-end. Et ça se traduit, c'est-à-dire qu'au bout de quatre courses, Lewis a 20 points d'avance sur Russell au classement pilote. On va dire que Mercedes, c'est comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils optimisent ce qu'ils peuvent optimiser. T'as Lewis qui a réussi à choper son podium sur l'année, ce qu'il avait dû attendre quand même pas mal de temps la saison dernière. Tu sens que cette voiture, zéro ponton, elle vit ses derniers instants, mais qu'il l'optimise au maximum de leurs possibilités. Là, pour le coup, est-ce que finalement, notre ami Lewis a déjà des échos sur la nouvelle voiture qui va arriver et se disant qu'il ne pourra faire que mieux qu'avec ce tracteur zéro ponton. Voilà, donc finalement, ouais, tu le sens beaucoup plus zen. Il a repris sa place de numéro un de l'écurie et c'est finalement là où il sent mieux et c'est normal, quoi. Après, okay. Georges, Georges était assez particulier. Comme on disait tout à l'heure, il s'est pris le bec avec Verstappen, l'accrochant, lui faisant un petit trou sur son fond plat sur la course sprint. Et après, derrière, il part combien sur la grille, Russell? Il partait 11e.
Ouais, il était pas en Q3.
Voilà. Voilà, il rate la Q3 pour 4 millième, c'est ça, je crois, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, il est pas en Q3, donc déjà, il se fait bien éclater par Lewis. Mais après, il est en 8e position. Voilà.
Donc voilà, après, il passe les voitures qu'il a à passer. Et il fait ce qu'il peut sur le week-end avec une Mercedes qui, si les Ferrari se prenaient 30 km/h avec le DRS dans la ligne droite, j'ai pas vu le différentiel avec la Mercedes, mais ça devait être encore plus important. Donc ils optimisent, ils font au maximum de ce qu'ils peuvent faire avec la voiture. Rendez-vous à Miami, je pense. J'ai pas entendu. Je crois que c'est Imola où tu aurais le nouveau concept qui arriverait.
J'ai pas très bien compris moi sur ça. Faudrait qu'il y ait des experts qui viennent nous éclairer Radio Merguez & Co là, parce que ils devaient changer complètement la voiture. Après ils ont dit qu'il y aurait évolution par évolution. Puis maintenant donc on est un peu dans l'expectative. C'est un peu croustillant.
J'ai mangé son nom, mais t'as le retour d'un ingé aussi dans l'équipe.
C'est ça.
Mercedes qui travaillait avec eux, donc voilà, ces genres de petites nouvelles qui peuvent aussi lui remonter le moral, se disant que voilà, ils arrivent à être troisième, voire ils sont pas loin d'Aston devant avec cette voiture là, et t'as envie de te dire que les prochains matins ne peuvent être que des matins chantants.
Ouais, c'est ça, mais ils ont repris James Allison pour directeur technique. Voilà, ils ont fait un peu une intervention de place, histoire de mettre un peu les bonnes personnes aux bons endroits. Enfin, en tout cas, c'est l'explication qu'ils ont donnée, que ça marchait très bien, mais comme ça marche encore mieux. Charles, toi, ta vision de Mercedes, t'es raccord avec ce qu'a dit Lance, c'est ils font le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et puis, on verra ce qui se passe, quoi.
Hamilton, peut-être l'année dernière, il n'a peut-être pas été entendu sur les retours techniques, parce que c'est lui qui se chargeait quand même de faire des retours. Il y avait quand même des grands prix, ça devenait des essais libres pour eux. Ils avaient été corrects, celle de Russell et celle d'Hamilton étaient parfois avec des réglages extrêmes. Bon, il avait eu de la chance, hein. Je te corrige, Lens, il avait eu le droit quand même à un podium dès le premier grand prix à Bahreïn, grâce aux abandons des deux Red Bull. Mais pour eux c'était inespéré, et d'ailleurs ça s'est suivi derrière parce qu'il a mis du temps là ce coup-là à refaire des podiums, ou en tout cas il en avait fait plusieurs, hein, mais la victoire lui a échappé en tout cas l'année dernière, et cette année effectivement ils ont bien compris que le sursaut qu'ils avaient eu au Brésil 2022 au final c'était qu'un sursaut, que le que le concept, bah, visiblement, personne l'a adopté. Et des fois, il faut se poser des questions du pourquoi je suis tout seul.
On dit ça souvent chez Radio Mergazenko. Quand t'es tout seul à faire un truc, soit t'es génial, soit tu t'es planté complet, et puis bon, bah voilà quoi.
Après, bah, ça leur a coûté un titre de champion du monde constructeur, un titre de champion du monde pilote. Ça va leur coûter un deuxième titre de champion du monde constructeur, un deuxième titre de champion du monde pilote. Et des millions d'euros, et des millions de livres ou de dollars, je ne sais pas quelle devise on discute ici. Donc le concept, effectivement, hein, il fonctionne pas bien. Après, est-ce que c'est que le concept aéro ou est-ce qu'il y a autre chose? J'ai quand même l'impression que l'aéro est quand même souvent remis en cause côté Mercedes. Donc je pense que maintenant, on est un peu plus serein. Peut-être que aussi on leur a donné peut-être des previews de ce qui va arriver. Donc, ça se trouve, ils vont arriver avec une Red Bull noire, on ne sait pas.
ça serait bon, ça.
donc, à voir. Et ouais, je pense que, entre guillemets, une sorte d'acceptation du fait que bah, maintenant, on joue une P4 et on ne joue plus une P1. Et une P4, c'est un très bon résultat. Et un podium, c'est encore mieux. Mais on ne joue pas pour les victoires tous les jours. Et bon, bah, quand tu l'acceptes, et que je peux pas dire que ça soit digéré, mais quand tu sais que tu vas pas au front. Alors après, je peux comprendre. Hein, quand ça fait 6-7 ans que tu te bats tous les week-ends pour la pole et qu'on te dit maintenant, quand tu fais une P4, c'est un bon résultat, je peux comprendre que ce soit frustrant. Mais bon, je pense pas qu'Hamilton, quand même, soit retraité en fin de saison.
C'était un débat qui nous animait. Après, moi, je trouve qu'ils sont moins sous le feu des projecteurs. Hein. C'est un peu comme si on avait renoncé à tout du côté Mercedes. Enfin, en tout cas, dans le suivi médiatique ou dans l'emballement du Landerneau.
Russell, on n'entend pas parler. Hein. Là, le transparent un peu du week-end. Mais ouais. Est-ce que ça leur permet de souffler un peu, quoi?
Yes. OK. Bon, ben, on va passer tout de suite à une rubrique qui va prendre un peu de... qui a beaucoup de merguez dedans. C'est la rubrique des Frenchies. Fais pas cette tête, Lance. Oui, c'est la Marseillaise, mais bon, on l'a pas chanté ce week-end, ça c'est sûr. Du côté Alpine, week-end catastrophe. Alors, c'est vrai qu'on était parti très fort le vendredi avec le moteur en feu, puis au final aussi toute la révision qu'ils ont fait sur la voiture d'Ocon. Donc, les voitures n'ont pas roulé, quasiment pas. Et puis au final, bah, c'est pas compliqué hein, dans les qualifications pour la course du dimanche, et ben voilà, il y a Gasly qui sort, il y a Ocon qui notamment passe pas grand chose, qui se fait sortir par une McLaren, en l'occurrence par Piastri, et puis voilà, au final on se retrouve avec une voiture qui a pas roulé et qui part de très loin, en tout cas dans les deux, que ça soit le sprint ou la course, donc difficile de remonter. Et puis bon, au final les voitures sont pas dans les points, il s'est rien passé de bon. Ils avaient amené des évolutions, on en reparlera, mais on n'a rien pu voir, rien pu vérifier. Et puis voilà, Alpine qui devait justement, après ses bons résultats, enfin ses bonnes performances montrées en Australie, mais qui n'avaient pas été concrétisées par quelques points que ce soit, il devait un peu remonter la pente sur ce Grand Prix. Puis que nenni, rien du tout. Lance, est-ce que ça va? Est-ce que tu commences pas à te dire que c'est en train de mal tourner du côté de... du côté d'Alpine?
Ouais, comme disait on aime bien la dire, c'est cette phrase du grand philosophe Franck Ribéry, la roue tourne, on va finalement finir par tourner, quoi. Donc, on peut qu'espérer ça, mais...
Elle tourne de 360 degrés, elle tourne de 360 degrés à chaque fois pour l'instant.
Ouais. Ouais, c'est vrai que si tu fais des rotations modulo de pi, au bout d'un moment, tu retombes toujours à ton point de départ. Mmh. Donc c'est sûr que c'est gênant, mais non. Mais là, c'est vrai que pour le coup, c'était bien particulier. Et c'est ce que disait Charles tout à l'heure. Tu t'amènes des améliorations, des nouveaux packages, t'amènes des évolutions. Pierrot qui a son moteur qui crame. Il a pu faire 5 tours seulement pour dans les essais libres. Derrière, la voiture qui flambe, les mécanos font un travail de malade. Ils se plantent comme une vieille merde dans des tech pro sur la qualif.
Il a voulu pousser.
Pour Esteban, c'est pas terrible non plus. Comme on l'a dit au départ, il brise le parc fermé. Esteban qui part dans les depuis les stands. Après, finalement, tu te rends compte que la voiture ne mange pas de pneus et c'est finalement le bon un des bons trucs parce que si tu avais pas l'obligation de t'arrêter, on va dire qu'avec les pneumatiques hard, Esteban faisait l'entièreté de la course, faisait les 51 tours. Bon, il a failli avoir des jambes et des morceaux de journalistes sur sur sa voiture, mais ça c'est un autre problème. On en parlera un petit peu plus tard pour la merguez habituelle de la FIA et de son organisation. Tu peux avoir des petits signes aller dans l'aspect vraiment carrefour jeu positif quoi, mais c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu longuet et ça fait quand même deux week-ends. Tu pensais avoir touché un petit peu le fond avec l'Australie et encore tu dis que l'Australie,
oui.
Il y avait eu la course, il y avait eu des choses et ils étaient bien placés, mais voilà, tu t'en vas, tu fais zéro point, c'est presque la faute à pas de chance. Là, c'est sûr que c'est autre chose et t'as encore. C'est un week-end pire que ce que t'as pu vivre en Australie. Donc l'avantage, c'est ce qu'on disait, c'est que finalement, vu que les courses vont s'enchaîner, tu peux passer à autre chose. Et si à Miami, tu réussis à marquer des points, ça gommera pas ce qui s'est passé là, mais tu seras un petit peu mieux en acceptation et ça fera rebondir l'équipe pour qu'il y ait du taf derrière. Mais
okay.
C'est vrai que c'est vraiment un week-end à oublier pour nos bleus.
Ouais, ça fait pas mal de week-ends à oublier depuis le début. Charles, on t'a pas beaucoup entendu parler de d'Alpine, l'écurie française. Comment tu les vois, toi, de manière générale, enfin globalement là maintenant après ces quatre grands prix, que ça soit les pilotes, les performances. On a vu quand même quelques erreurs des pilotes. On a vu quand même une voiture. Alors il y a eu des problèmes mécaniques, peut-être des erreurs qui ont été difficilement rattrapées ou rattrapables. Mais au final, en course le dimanche, les Alpines, franchement. C'est à la base, officiellement, c'était pour la quatrième place hein, qu'ils étaient en lutte sur cette saison. Là, ils sont bien loin de ça. Et puis même les autres, on se moquait de McLaren, c'est les pipes cette saison. Sérieux, enfin, est-ce qu'elles sont plus performantes les Alpines ?
Effectivement, hein, à chaque fois, on met beaucoup de poids sur les épaules d'Alpine parce qu'on a beaucoup d'attentes et ils nous promettent aussi peut-être beaucoup de choses. C'est clair que sur les quatre premiers week-ends, ce qu'on retient, c'est juste la P5 de Gasly, enfin la P5, jusqu'au 95% du Grand Prix d'Australie. Mais sinon, ils sont clairement transparents dans la lutte à la P4, où limite, c'est la P4 va jouer entre Mercedes et Ferrari à ce rythme-là.
Oui, donc c'est pas pour autant que c'est facile, hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils avaient annoncé. C'était les ambitions de début de saison. Des essais hivernaux, on a vu que c'était compliqué, qu'il y avait une couille dans le potage, on pourrait le dire, pour le moins. Et puis, course après course, c'est pas rassurant. Enfin, il n'y a pas de sérénité, en tout cas.
Alors, t'as un duo de pilotes qui est quand même plutôt bon. Faut pas le nier, on est loin des pilotes non expérimentés. Hein. Ocon, il doit être peut-être à sa sixième ou septième saison, sixième sûrement. Gasly, ça doit être quasi pareil. Ils ont tous les deux gagné un Grand Prix. Ils ont été tous les deux dans des girons de grosses écuries, donc ils savent ce que c'est l'élite. Donc effectivement, hein, maintenant, là, il manque toujours cette voiture. Enfin, cette voiture, elle a toujours des problèmes, soit de fiabilité, soit de performance pure. Je le répète encore, mais moi j'ai toujours dit, c'est de performer, de taper le top 6. Et sur certains grands prix, il est capable uniquement de taper le top 12, quoi. Et c'est un peu une loterie en fonction des grands prix. On ne sait pas trop pourquoi. Alors il y a bien une explication, hein, sûrement. Mais je suis toujours un peu de mal avec ça. Il y a rarement une constance. Et c'est ça qui manque. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'est toujours compliqué. Hein. C'est parce qu'on ne sait pas s'ils sont capables d'aller en Q3 tous les week-ends. Alors, certes, il y a beaucoup de monde, mais quand on voit le step qu'a fait McLaren entre le premier Grand Prix, où les deux ils font les fonds de grille, et là, tu en vois au moins Norris ou au moins Piastri à chaque qualif en Q3, le step, il est quand même gros, parce qu'il partait très loin. Et quand tu vois Alpine, qui du coup bah, galère sur un Grand Prix qui n'est pas inconnu au bataillon, qui est connu depuis des années, et ils ont roulé, les deux pilotes ont roulé sur ce circuit-là, je trouve ça quand même très compliqué pour eux. Donc un peu un carton jaune hein, quand même pour le coup pour eux ce week-end-là, parce que une écurie qui a ces ambitions-là ne peut pas se permettre ce genre de week-end. Hein, c'est clairement pas négligeable. Je ne sais pas ce qu'a dit Laurent Rossi, j'avoue, je n'ai pas mis de déclaration de.
Non, j'ai pas vu passer ça.
Mais bon, je pense pas qu'il soit satisfait pleinement de côté.
Je pense pas qu'il soit satisfait. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur Alpine Lance ou on peut passer sur bah justement parler des autres écuries?
J'ai rien à ajouter par rapport à Charles.
Est-ce qu'on parle des franchises ou on parle que d'Alpine? Parce qu'on peut peut-être parler un peu de F2, mais c'est vous qui voyez, messieurs, si jamais...
Non, mais tu as le droit de dire tout ce que tu veux, hein, si tu veux un peu aborder la F2. Moi, je voulais qu'on finisse d'abord justement avec les autres écuries. On a déjà parlé de McLaren, comme tu l'as bien dit, qui remonte la pente alors qu'on les voyait au fond du trou pour toute la saison, notamment parce que c'est les concurrents directs d'Alpine, donc forcément, voilà, ils sont nuls, il n'y a rien à faire, alors qu'en fait, non. Et puis après, les autres écuries... On avait dit, Lance avait évoqué le fait que AlphaTauri, ils étaient un peu performants sur ce circuit. Franchement, quand on voit Alfa Romeo, AlphaTauri, c'est voilà, plutôt. Moi, le sentiment, c'est qu'on est plus sur l'Omega que sur l'Alpha, mais bon, ils vont pas rebaptiser les écuries. Mais allez-y, hein, c'était censé être un circuit qui favorisait les Williams. C'est pas tout à fait ce qu'on a vu. Lance, je te laisse un peu finir sur le petit medley des écuries, forcément un peu de fond de grille.
Bah, Alfa Romeo transparent comme depuis le début de saison. As Magnussen vraiment dans le dur comme depuis le début de saison. De toute façon, quand pour Alfa Romeo, quand tu as Bottas qui fait plus parler de lui pour sa coupe mulet que pour sa conduite, je pense que dans ce cas-là, t'as tout dit sur ses performances. Yuki Tsunoda qui pour le coup lui a passé un cap avec le départ de Pierrot qui a pris un petit peu le lead. Est-ce qu'il est un petit peu libéré, et le fait d'être finalement le pilote numéro un de l'écurie, ça lui fait prendre des responsabilités? Après, c'est toujours pareil, c'est que au royaume des aveugles, le borne est roi.
C'est ce que je vais dire, ouais.
Quand ton pilote numéro 2, c'est Nyck de Vries, qui lui, pour le coup, normalement, est un rookie, mais un rookie de 27 ans, qui a quand même déjà roulé sa bosse, il est à des années-lumière de ce que fait Piastri. Et pour le coup, lui, Piastri, il confirme chez McLaren, tout le bien qu'on peut penser de lui. Norris est encore un petit peu devant parce que forcément il est là depuis quelques saisons déjà et qu'il a quand même aussi lui roulé sa bosse, mais on a quand même une deuxième partie de grille qui est assez compliquée. T'as Hülkenberg qui de temps en temps va faire quelques petites choses du côté de Haas. Ou comme Esteban, il était parti sur ses hards et a fait quasiment toute la course. Lui s'est arrêté un petit peu avant pour finir dans les limbes. Pas forcément grand-chose à signaler de plus. On en est presque parfois à regretter l'absence de Latifi qui, lui, se serait envoyé dans le mur et nous aurait fait un drapeau rouge ou une safety car au 40e tour et nous aurait relancé la course pour les 10 derniers tours.
Ok. Ouais.
Ouais, une deuxième partie, c'est vrai que dès que tu sens quand même si As est à 7 points et n'a qu'un point de moins que
Alpine,
tu sens quand même que entre les deux écuries, il y a un gap un petit peu plus important que ce point qui diffère, même si c'est pareil, Alfa Romeo, 6 points. Voilà, mais tu sens quand même que c'est pas terrible. Joe, c'est dans le dur. Bottas, c'est dans le dur. Magnussen, c'est dans le dur. Tu sens vraiment que c'est compliqué, comme tu l'as dit, sur les Williams, où on pensait qu'elle pourrait faire quelque chose, parce que oui, avec ces lignes droites dignes de lignes d'atterrissage d'aéroport, bah ouais, elles étaient pas non plus au rendez-vous comme elles ont pu l'être par le passé.
Ok. Bah après,
Donc,
il faut.
est-ce que c'est ces Formule 1 qui sont vraiment en retrait et en dessous des attentes, ou c'est finalement, oui, vraiment les quatre top teams qui sont largement au-dessus et qui écrasent tellement les autres que elles nous paraissent des fourmis à côté des éléphants, quoi.
En tout cas, il y a deux pilotes pour l'instant qui ont marqué, qui n'ont pas encore marqué de points au classement, c'est Logan Sargeant et Nyck de Vries. Voilà, tu avais parlé de Nyck de Vries, c'était un peu compliqué pour lui actuellement. Charles, des choses à ajouter sur ces écuries-là, ou on va passer aux 5 infos de notre ami Sébastien Vittel?
Enfin, en tout cas, Lance a très bien résumé la situation
Très très bien.
du classement.
Ok, bon allez, c'est parti pour les 5 infos inutiles de la semaine de Sébastien Vittel.
C'est box, 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 box.
Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Après un temps si long sans course, voici que nous avons droit à 5 courses en 6 semaines. Préparez-vous à avoir une overdose de merguez fumante avec barbecue F1, et les plus pimentées si possible. Pas sûr qu'Esteban ait apprécié l'immersion en groupe B des années 80 lors du dernier tour. Chez AlphaTauri, un concept de double capteur de temps est à l'étude. Un capteur pour le pilote et un capteur pour sa roue arrière droite. Avec toutes ces données, ils feront des calculs de performance indépendants lors de décrochages intempestifs de l'élément. Regarder la course sprint revient à la même chose que de se faire spoiler la fin de Game of Thrones. La course sprint est juste un gros spoil de la course du dimanche. Georges est peut-être une tête de bite comme le dit Max, mais pour le coup cette année, c'est plutôt lui qui la joue vraiment petite bite. Doit-on lui rappeler ce si beau message de Bahreïn 2021?
It's called a motor race, okay? We went to car racing.
Ce n'est pas à sens unique. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao.
Voilà. Ben Lance avait un peu spoilé certaines de ces informations exclusives de la part de Sébastien Vittel, mais voilà, on avait un peu à la fois abordé ces choses-là, peut-être présentées de manière un petit peu moins directe. Voilà, mais
c'est vrai que l'une des images what the fuck, c'est l'AlphaTauri qui est en crabe pendant un tour, là.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que la voiture, elle est complètement défoncée. Les mecs, ils disent, bon, les gars, on remet des roues, on va voir si ça tourne. Et tu vois la voiture qui est, comme si, qui s'est pris un gros choc et
Ouais.
tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, pour le coup, ça renvoie pas forcément une image,
Alors,
très high-tech de la formule.
c'est ça. Et c'est ce que j'allais dire un petit peu sur. Tu disais la FIA. Bon, il y a eu ces problèmes avec le dernier arrêt d'Esteban Ocon sur l'avant-dernier tour, avec les journalistes qui étaient en train de traverser. Alors, soit dit en passant, ça veut quand même dire qu'ils regardent pas la course, parce que tout le monde savait qu'Esteban Ocon, il fallait qu'il s'arrête et que c'était donc maintenant et ça pouvait pas être un autre moment. Mais après, il y a justement ce cas avec l'AlphaTauri qui passe au stand et puis là, la relaisse partir dans cet état alors que ben, ils ont rien vérifié. Et qu'est-ce qu'on avait comme autre cas sur et le dépassement de Russell un peu dans les stands sur je sais plus qui c'était sur qui.
Bah c'est Esteban qui freine et il lui fait l'intérieur vers la pit lane, quoi.
Ouais, il y a un truc comme ça. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez des choses à ajouter sur les décisions de la FIA, mais c'est vrai qu'on a eu peur sur ce dernier arrêt d'Ocon. Bon, après, je sais pas si t'avais envie de broder sur ça, Lent.
Bah, a priori, c'est quand même des choses qui existent sur toutes les courses, sauf que ça fait extrêmement longtemps, sauf sur bah, comme a pu faire Russell. Pour aller choper le meilleur tour en course, généralement à peu près à 3 tours de l'arrivée, maximum 2, tu fais un arrêt pour enfiler des pneus soft neufs pour essayer d'aller chercher justement ce meilleur tour. Et donc dans le dernier tour, normalement, t'as personne qui s'arrête. Donc finalement, tu rentres un petit peu dans une routine qui fait que bah voilà, t'as personne qui s'arrête, les gens ils ont l'habitude, ils se mettent là, ils vont sur la fast lane alors que ils n'ont pas à mettre un pied là-dessus. Tu restes côté un peu pit lane, tu te dis que t'es un peu plus en sécurité, mais comme quelqu'un qui a arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence le long de l'autoroute, quoi. Donc techniquement, t'as pas les voitures qui te roulent dessus, mais si t'as un camion qui passe un peu rapidement, bah voilà, tu peux être un peu soufflé. Et c'est comme ça que tu as cette fameuse statistique qui dit que tu ne survis pas normalement pas plus de 15 minutes si tu es au bord d'une autoroute, quoi. Tu finis par avoir une voiture qui te roule dessus, ou un camion, ou je sais pas quoi. Donc ouais, c'était pas forcément sérieux, mais finalement peut-être le moins sérieux du week-end, et j'ai envie de dire plus jamais ça, c'est les commentaires de Jean Alési sur Canal+.
Oui, je vous ai pas trop en parler parce que
c'est catastrophique. C'est à la limite, bon Jean, allez-y, enlève ton écusson F1 de tes beaux polos en dessous de tes gros pectoraux que tu travailles à la salle de muscu. Mais laisse un cheval cabré, dire que le mec, une fois que Charles s'est fait sauter par Max. Et qu'il n'arrivait plus à le récupérer, t'entendais plus Jean Alési. T'as même Febro qui lui a dit « Ah, une fois qu'il y a eu la safety car, ah, Jean Alési, vous allez pouvoir revenir dans les commentaires et vous réintéresser à la course.
» Mais après...
Donc, en fait, j'espère qu'ils ne l'ont pas payé pour ce week-end.
Bah, bien sûr que si.
Et que finalement, on parlait tout à l'heure que les borgnes sont rois au royaume des aveugles. Rendez-moi Jacques Villeneuve.
Ben c'est ce que j'allais dire. Je l'ai pensé et il n'y avait pas besoin d'attendre la course, même pendant les essais, les qualifs et tout. Je l'écoutais et je me disais, on est critique envers Villeneuve. Alors peut-être parce qu'il a un ton un peu, par moment, t'as l'impression qu'il a les chevilles il a un ton très condescendant. Et puis en plus, il aime pas du tout Lewis Hamilton. Et donc c'est pas forcément un avis que je partage avec lui. Mais à écouter, allez-y ce week-end. Et sans attendre le fait que les Red Bull soient larges devant Leclerc, je me disais au final Villeneuve c'est plutôt bien. Mais après j'aime bien aussi le fait qu'il y a le petit accent du sud de Jean Alési par moment, et puis il y a une sorte de d'humour. Mais c'est vrai que c'est au niveau expertise on n'est pas trop au rendez-vous. Non, Charles,
c'est pour ça, c'est qu'à la limite si Jacques Villeneuve est pas dispo. Là, par exemple, pour Miami, on va avoir Grosjean qui est au commentaire le week-end prochain. Ça va être deux salles, deux ambiances. Hein. ça, on va retrouver l'expertise. Mais moi, j'ai kiffé Montagny au commentaire. Oui. C'était en Australie.
Mais c'est ça. Ouais.
Mais finalement, si Villeneuve, c'est trop loin pour lui. Pour l'Azerbaïdjan, c'est compliqué parce qu'il a d'autres obligations. Grosjean, il peut pas être là. Mais Montagny, quoi. Et le mec, il t'a montré qu'il a fait le taf. Il s'est expliqué la Formule 1. Surtout sur ses débuts de saison où il y a plein de packages qui arrivent sur les évolutions. Il va te les expliquer. Il va dire le pourquoi du comment. Même Simon Chautan, il est plus intéressant que Jean Alési. Parce que c'est au moins des ingénieurs. Ils peuvent te parler de bagnole. Jean Alési, franchement, on peut l'inviter à un barbecue merguez et ça sera peut-être le moins expert d'entre nous, quoi.
Oh, oh, oh là là là, il va falloir réduire le rythme des braises là, ça chauffe trop. Là. Charles, voilà, t'as envie de mettre ton doigt dans ce débat sur les commentateurs ou les consultants?
En fait, le débat, je l'ai clos en achetant un abonnement F1 TV.
Oh, monsieur est un esthète. Ok.
Et Gaëtan Vignon. Il dit 70 au lieu de 70, mais à partir de là, au final, il est tout seul à commenter les qualifs. Il est avec quelqu'un souvent le week-end, enfin le dimanche plutôt. Mais du coup, ça change même quasi tous les dimanches. C'est un autre style. Et j'avoue que pour le coup, je me dis que vu le prix que ça coûte, Canal, la F1 TV, ça coûte deux fois moins cher. Et on a même tous les on-boards, on peut vraiment aller où on veut. Si jamais en anglophone, on peut, on peut aller même sur le signal international. Donc si on veut vraiment bouffer de la F1, au final, la F1 TV, c'est 8 € par mois et même on peut ne pas mettre de commentaires, quoi.
Ok.
Moi, fan mince, comment il s'appelle? De mince, j'ai perdu son nom.
Febo?
Pas Montagny. Non, l'autre.
Mais Grosjean, Villeneuve.
Villeneuve, effectivement, j'ai jamais été un fada de Villeneuve. Montagny, moi, je le trouve ultra pertinent, mais soit sur une qualif, dans les stands. En course, j'ai parfois un peu de mal pendant 2 heures d'entendre Montagny. Grosjean, en fait, dès que c'est un ancien pilote qui est là depuis pas très longtemps, par contre, je trouve ça ultra pertinent parce qu'il sait ce que c'est la F1 moderne. Et du coup, que ce soit l'ancien ingénieur Kimi Raikkonen ou Grosjean ou Ocon qui l'avait fait en 2019, bah, en fait, c'était ultra pertinent. Alors certes, c'est peut-être moins d'émotion, mais il remplit très bien le rôle de consultant. Enfin, il remplit très bien le rôle de consultant. Après, Febro, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Pour le coup, il a son style à lui. Et après, effectivement, soit on aime ou on n'aime pas. Ouais, Villeneuve, on souffle, comment dire.
Ok, bon, ça c'est dit. On va passer tout de suite à notre grande rubrique des pronostics du prochain Grand Prix, c'est celui de Miami. Voilà. Alors, on va balancer tout de suite les pronostics de Sébastien Vettel sur Miami, comme ça, bah, voilà, c'est toujours le premier qui prend tous les risques, écoutons ça.
Pour Miami, de mon côté, j'espère encore une victoire de Perez. Ce serait trop bien. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans l'écurie si jamais il se rapproche trop de Max. Donc, je dis Perez, Max et Charles. Allez, tant pis. J'aurais bien aimé Sainz, mais bon, il est quand même trop à la ramasse. Ciao.
Voilà. Ça fait rigoler à Lens. Qu'est-ce que tu dis, toi, de ces pronostics, là? Perez, Verstappen, Leclerc? Ça ressemble à ce qu'on a pu voir sur ce Grand Prix de Bakou, mais à Miami, est-ce que ça sera la même chose?
Verstappen, ouais, il avait remporté l'année dernière. Bocheco avait fait P4. En plus, avec le meilleur tour, il avait fait un peu la totale. Non, ben je pense que Max va reprendre la main. Sur ce circuit, Perez 2, parce que on en revient toujours à la même chose, tant qu'il n'y aura pas de grosses évolutions et de vraiment des packages intéressants de la part des concurrents, ça sera difficile de dire autre chose. Et Alonso 3. Je pense que
ouais, c'est pas mal ça.
Va revenir dessus et va reprendre sa place sur le podium avec les évolutions et un petit peu plus de temps pour les mettre en route et un peu plus d'essais libres aussi pour que tout ça se mette bien en place.
Ok, j'ai pas rappelé ton pronostic mais pour ce Grand Prix de Bakou, c'était Verstappen, Perez, Gasly.
C'est j'ai pu esquisser un sourire en entendant Sébastien qui nous disait j'ai hésité avec un Carlos. Je crois que en mettant un Gasly troisième, je n'ai pas le droit d'esquisser un sourire. En
fait. Ok. Charles, toi, écoute, ça faisait pas quelques émissions où on n'avait pas eu tes nouvelles. Je crois que tu nous avais annoncé pour l'Australie une victoire de Verstappen avec une deuxième place de Perez, troisième place d'Alonso. Sachant que ça a été du Verstappen, Hamilton, Alonso, donc c'était pas si mal quand même, c'était un bon prono. Je pense que tu vas nous sortir quelque chose de pertinent.
Je vois une Red Bull, une Ferrari, une Aston. Mais effectivement, ouais, je vois plus un Verstappen, Alonso, Leclerc. Quelque chose comme ça, et je me dis que cette fois-ci, peut-être avoir un peu plus. Mais je pense que certaines voitures, en tout cas du top 10, vont y aller. J'espère que les Ferrari, en tout cas, n'auront pas de problèmes mécaniques. que ce week-end-là, on l'a vu, quand tout roule, elles peuvent quand même mettre des points, mettre des gros points. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va aller.
Ok. Ok, très bien. Moi, je vais. J'hésite à voler son pronostic à Lens. Parce que c'est, voilà, c'est pareil, c'est la cote à 1,0 quelque chose. Mais à la limite, je vais faire le même podium que ce week-end. Je vais mettre Charles Leclerc à la place de Fernando Alonso, même si c'est juste parce que j'ai envie d'être différent, j'ai envie d'exister. C'est pour ça que je fais ça.
Et le loto, quoi. Je joue toujours le même podium. Peut-être qu'un jour, il finira par tomber. Hein. Tu sais pas. Hein.
Ouais, alors en fait, ouais. Je sais pas si c'est bien de faire ça. En tout cas, bah, j'avais parié quand même la victoire du TFC au Paris Sportif et ça m'a rapporté pas mal d'argent sur cette Coupe de France quand même. Ok les gars, bah, est-ce que bah, tu voulais peut-être parler, faire un petit point F2 Charles, puisqu'on t'a interrompu pour finir la description de ce Grand Prix de Bakou, mais c'est peut-être le moment. Qu'est-ce que tu voulais nous dire?
J'étais surtout aussi pour parler des franchises. Ça leur a pas forcément très bien réussi ce week-end-là aussi. Hein, la spirale négative d'Alpine a peut-être eu des éclats en F2. En course 1, le meilleur français fait 7e, c'est Novalak. Hadjar, il est arrivé 8e. Martins, il est arrivé 13e. Et pour Cher, que je ne dise pas de bêtises, 15e. Donc il s'est même accroché au tour 18. Donc, pas terrible, en tout cas, pour la première course. Et la course du dimanche, par contre, pour Cher, là, du coup, fait une plutôt bonne opération. Il finit 3e de la course principale. Et Hadjar fait 7e. Derrière Novalak, qui fait 16e, on n'en parle pas. Et Martins, lui, était 4e, mais était disqualifié. La voiture était pas conforme. Donc, okay. Week-end plus quand même pour les pilotes français. On va dire qu'un seul pilote sur les quatre qui fait un podium. On avait été habitué à un peu mieux sur le début de saison, mais du coup, ce qui permet à Pourchaire quand même d'être premier au classement après l'issue de ce week-end-là.
Okay.
Il est premier à un point. Derrière, Hadjar et Martins sont 14e et 15e et Novalak 18e sur 22.
D'accord. Ok, moi c'était bien de te faire ce petit point. F2 Lent, quelque chose à ajouter? Juste peut-être rappeler que à l'époque du Grand Prix de Miami l'année dernière, à ce moment-là, Ferrari était toujours en tête du championnat. Il y a pas mal de roues qui ont tourné depuis cette époque. Ok. Bon.
Non, pas forcément grand-chose à ajouter, si ce n'est est-ce que la Marine Race sera toujours en plastique?
Et ben ça, ce sera le suspense à venir pour ce Grand Prix de Miami. Ben, merci les gars, c'était un plaisir. Et puis ben, on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler du Grand Prix de Miami. Ciao les gars, salut.